Bonjour, bienvenue au Champ Libre. Donc aujourd'hui, avec le festival, enfin dans le cadre du festival Bouillant, nous avons le plaisir de vous proposer une conférence concert sur le clavecin et la musique électronique. Et donc le représentant de Bouillant, donc aujourd'hui Gaëtan Alain, directeur artistique, va vous présenter les intervenants.
Bien, bonjour à tous, je suis très heureux de voir qu'il y a du monde. Bienvenue. Merci de votre curiosité. Je précise juste un petit mot, pas Festival Bouillant. Festival Bouillant, c'était auparavant. Le contexte de Bouillant, un événement donc qui existe sur Rennes Métropole et la région Bretagne depuis 4 ans, 4e édition cette année, au vu du dispositif dans sa globalité, sa maturité, son évolution naturelle, c'est devenu maintenant un espace bouillant. Alors, espace bouillant, ça permet d'être pluridisciplinaire, large, élastique, libre, sans frontières. C'est d'ailleurs la thématique de cette année, frontières. Je vous invite, pour avoir un peu plus de renseignements sur ce dispositif, pour peu que vous n'en ayez pas entendu parler, à aller sur bouillant.fr, bouillant au pluriel. Vous aurez toutes les informations. C'est un contexte de réflexion qui se veut généreux, participatif, et qui s'interroge autour du numérique. Alors aujourd'hui, une forme un peu particulière. Grand merci au Champ Libre de nous accueillir. Merci Katia. Grand merci à vous tous, donc, comme je le disais à l'instant, d'être parmi nous. Et puis grand merci aux intervenants qui vont se donner corps et âme à votre curiosité. Donc j'appelle M. Guillaume Kosmicki, conférencier musicologue qui va prendre la parole. Jessie Lucas, artiste multiforme, pluridisciplinaire autour du numérique. Et Pierre Gallon, claveciniste de son état. Bon moment à vous tous. Merci.
Bien, ben, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette rencontre. Donc effectivement, j'ai cette lourde tâche, mais très plaisante, donc en tant que musicologue, de présenter, de relier en fait deux univers qui, a priori, pourraient sembler extrêmement éloignés quand même par le temps, par les technologies aussi. Et on a choisi ensemble, pour cette présentation, finalement, c'est tombé sous le sens de relier ces deux univers avec deux thèmes qui seront les deux thèmes de ma présentation. Le thème de la technologie, parce que effectivement, à chaque époque, de toute façon, on pourrait dire ça en général, à chaque époque, de tout temps, les instruments de musique, et même dans toute culture, dans toute société, les instruments de musique correspondent de toute façon à l'avènement vraiment des technologies de pointe, des dernières découvertes scientifiques, vraiment, qui sont le fruit de cette époque, le reflet de cette époque. Et chacun dans leur époque, le clavecin, comme tous les dispositifs électroniques qui caractérisent les musiques d'aujourd'hui, chacun correspond et vraiment au summum des technologies d'un moment. Donc je présenterai pour commencer un petit peu le clavecin d'un point de vue technologique pour voir à quel point c'est un bijou de technologie de son temps et quelques éléments aussi sur ces musiques électroniques succinctement qui vous montreront les possibilités offertes par les technologies notamment de l'informatique musicale dont il va être question tout à l'heure dans une joute entre le claveciniste Pierre Gallon et le musicien électronique Jessie Lucas. C'est pour ça qu'on a mis clavecin versus musique électronique. Est-ce qu'il va y avoir un vainqueur? Ça, je ne sais pas. Y a-t-il lieu d'avoir un vainqueur? En tout cas, il y aura une joute, c'est sûr. La deuxième idée, et ça c'est quelque chose qui effectivement relie très fortement aussi ces deux univers, ces deux mondes, et on y pense peut-être un peu moins, mais c'est que dans chacun des cas, le clavecin comme les dispositifs électroniques, chacun à leur époque, repose en grande partie, même en immense partie, sur une grande part d'improvisation. Et dans les deux cas, on verra avec Pierre et avec Jessie comment est-ce qu'il était dans du clavecin de coutume d'improviser. Voilà pour mon travail de relier ces deux univers. Et évidemment, la fin de cette intervention sera cette fameuse joute totalement improvisée. Je tiens à le préciser, ça c'est assez important, intéressant. On a peu communiqué auparavant. On s'est parlé quand même, on a préparé tout cela, mais on ne se connaissait pas avant aujourd'hui. Donc ça aussi, ça me semble tout à fait intéressant et c'est très plaisant pour chacun des trois. Voilà, chacun des trois intervenants. Donc, passons à cet univers du clavecin, 16e, 18e siècle. Je vais vous donner quelques éléments, quelques petites écoutes, quelques éléments sur l'apparition de, ce bijou technologique, vraiment un bijou technologique, j'insiste là-dessus, qui est extrêmement fin, extrêmement ciselé. D'où vient ce clavecin à l'origine? Alors là, je ne vous passe même pas les instruments vraiment d'origine, mais on peut dire qu'il vient du psaltérion du Moyen-Âge. Et ce psaltérion lui-même, et là on n'a pas d'illustration, mais vous l'imaginez, vient de la très très ancienne lyre grecque, et cette lyre qui a donné notamment la harpe. La différence du psaltérion avec ces deux instruments, c'est qu'on y a rajouté une caisse de résonance pour amplifier un petit peu le son, ce qui a aussi modifié considérablement le timbre de cet instrument, et cette caisse de résonance qu'on appelle une table. Donc on appelle ça un cymbalum à table, avec une table, avec cette table de résonance qui accompagne l'instrument. Voici quelques images. Alors là, c'est un psaltérion soprano. Celui-là, d'ailleurs, se joue avec un archet, mais il y a plusieurs moyens de les jouer, ces psaltérions, notamment avec les doigts, avec un plectre, avec une plume. Ce plectre peut être une plume, d'ailleurs. Et on a... autour du XIVe siècle, voilà un autre exemple, on appelle ça une sitar, mais c'est le même instrument. Autour du XIVe siècle, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rajouté un dispositif qui est un clavier, du latin clavis, qui veut dire la clé. Et ce clavier a permis donc déjà de jouer beaucoup plus rapidement avec, et beaucoup plus de notes, d'ailleurs en même temps avec les cinq doigts, et aussi de donner un son sensiblement différent. On a les premières traces de ces essais au XIVe siècle. On a des plans. Alors, les premiers plans réels qu'on a, c'est un certain Arnold von Zwölle. Je pense que vous allez bien le retenir, ce nom. Enfin, j'en suis pas si sûr. Mais il se trouve que c'est le nom historique, qui est un médecin qui, en 1440, a donné ses plans de cet appareil, avec ses touches, avec ses sautereaux caractéristiques, que je vais essayer de vous décrire rapidement, bien entendu, sans rentrer dans les détails, mais pour vous montrer à quel point c'est vraiment un vrai, vrai bijou de technologie. Cette famille, on a appelé ça la famille des clavecins, est constituée en fait de tout un ensemble d'instruments proches, des cousins, notamment l'épinette. Alors l'épinette, principalement, vous voyez, elle a cette particularité d'attaquer les cordes en oblique. Les cordes sont placées, disposées en oblique par rapport au clavier. Il y a le virginal, là c'est perpendiculaire, et le grand clavecin, proprement dit, qui est l'instrument le plus complet, le plus complexe, notamment qui va pouvoir avoir parfois deux claviers, ça va même parfois jusqu'à trois claviers, avec des changements possibles de timbre, de son, de puissance sonore aussi. J'y reviendrai. Alors, il y a même des cas particuliers, là, c'est le clavicitérium, qui est un clavecin, une sorte de clavecin qui est vertical, comme vous voyez avec le clavier là, posé. Donc, gain de place, bien sûr, mais en même temps, il faut avoir un plafond assez haut, ça c'est sûr. Donc voilà, pour cette idée-là. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est un tout petit extrait. Je ne vais pas m'attarder sur cet extrait parce qu'on a la chance d'avoir des musiciens de haut vol qui vont quand même avoir un temps de jeu conséquent. Il faudrait qu'ils aient un temps de jeu pour la fin, mais un tout petit extrait d'un virginal, justement, qui est un petit peu une version un peu première du clavecin. C'est un compositeur anglais qui est William Byrd, juste pour qu'on entende un peu ce son de cordes pincées. C'est ça la grande particularité du clavecin. Plus tard, 18e siècle, on aura le pianoforte qui est à cordes frappées. La grande particularité du clavecin, c'est cette fameuse corde pincée. Et je vais vous donner quelques éléments sur la technologie de ces fameuses cordes pincées. Mais voilà un petit extrait sonore. Du virginal, donc. Que ça serait un extrait qui serait court. Hein. C'est vraiment pour avoir ça dans l'idée. Vous allez en entendre, hein, du clavecin, du vrai clavecin, hein, dans un moment. Mais voilà, pour donner une idée du son de ce virginal, début XVIIe siècle, hein, pour cet exemple-là. Le clavecin s'impose, hein, vraiment dans l'histoire de la musique autour du XVIe siècle. Vraiment, il commence à devenir très important. Il va supplanter le luth, qui était l'instrument familier, domestique par excellence, pour devenir vraiment le plus important, le plus présent au XVIIe siècle et jusqu'à une bonne moitié du XVIIIe siècle. Alors, comment ça marche ? On a des touches qui vont actionner, soulever un sautereau, qui est une pièce de bois. Alors là, on n'en voit que la moitié, hein, peut-être même un peu moins que la moitié, on ne voit que la partie supérieure. Je vais vous montrer en coupe le sautereau complet. Hein, c'est sous le numéro 6, je ne vais pas tout vous décrire, mais l'idée, c'est que la touche va soulever ce sautereau. Et sur ce sautereau, vous avez un plectre qui est généralement en plume de corbeau, parfois aussi en cuir. Alors il y a du cuir de buffle, il y a du cuir durci, enfin il y a plusieurs systèmes. Et l'étouffoir qui est au-dessus repose sur la corde, bloque la corde, est en cachemire généralement ou en feutre. Et lorsqu'on soulève le sautereau, donc le plectre va pincer la corde, et pour revenir à sa place, pour retomber par son propre poids, parfois il est un petit peu lesté, eh bien, il y a une languette mobile qui part en arrière au moment où le plectre est un petit peu biseauté. Au moment où le plectre doit repasser sur la corde, la languette part en arrière, vous voyez, pour éviter que ça repince la corde une deuxième fois. On entend un petit bruit, mais il est très léger. Et la languette revient à sa place verticale par un système de ressort qui est donné avec des soies de sanglier. Ça a l'air très rudimentaire, très archaïque, mais c'est une technologie de pointe et de précision. Chaque sautereau, hein, sur chaque corde, et à son poids particulier, à son emplacement particulier, il doit être assez mobile, assez lourd, etc. C'est très, 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 très précis. Et il y a d'autres systèmes. Donc voilà le système. Hein, vous voyez, la corde se met en vibration, puis elle retombe. Donc la languette part en arrière et le plectre se remet sous la corde. Mais d'autres systèmes se rajoutent qui vont permettre de changer les timbres. Éventuellement, vous pouvez déplacer légèrement les sautereaux pour qu'ils pincent ou non une corde. Vous voyez, sous le petit 5, hein, on peut déplacer comme ça ce qu'on appelle un registre, hein, cette barre horizontale qui permet de déplacer horizontalement le sautereau. Et puis par d'autres systèmes, par exemple en avançant ou en reculant un clavier, ça Pierre vous le montrera tout à l'heure, on peut pincer une, deux, trois cordes en même temps avec la même touche. Voilà, donc ça c'est tout un système extrêmement abouti qui montre bien que ce clavecin est un bijou de technologie pour son temps et pour son époque. Voilà quelques clavecins parmi les plus célèbres, donc par exemple fabriqué à Anvers par Rückers, ici un clavecin français, un Tasquin aussi qui est un autre constructeur français. Je ne veux pas vous donner toute une liste de concepteurs de clavecins, mais chaque pays a sa sonorité propre, a ses technologies propres, et on arrive à des objets très 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 aboutis au XVIIIe siècle avant qu'ils se fassent, je le disais, supplantés par le pianoforte. Donc ce que je vous propose pour terminer ce chapitre sur le clavecin, c'est de vous faire écouter deux petits extraits. Un extrait de Domenico Scarlatti, qui est un des grands claveciniste du début du XVIIIe siècle et qui joue sur un beau clavecin. Enfin là, c'est pas lui bien sûr qui joue, c'est Pierre Antaille, un grand claveciniste, qui joue sur un clavecin italien. Et vous allez entendre des timbres très particuliers. Il imite les danses espagnoles parce qu'il a servi à la cour d'Espagne et il frappe notamment sur les touches. Il rajoute beaucoup, beaucoup d'envergure à la patte sonore sur un très beau clavecin du XVIIIe siècle. Donc que voici en exemple. Pour pour un exemple d'un clavecin du XVIIIe siècle. Et je tenais aussi, et Pierre Gallon est d'ailleurs donne dans ce domaine aussi, je voulais vous signaler qu'il existe aussi une musique contemporaine, même pas mal d'œuvres contemporaines pour clavecin. Pour exemple, je prends un exemple de Giorgi Ligeti, donc ce compositeur qui disparaît en 2006 et qui a écrit au début des années 60 une pièce pour clavecin qui s'appelle Continuo, dans l'optique des œuvres qu'il composait dans cette année-là. C'est-à-dire, l'idée, c'est une surface de timbre. Vous allez avoir une grosse masse sonore qui donne l'impression d'être immobile, presque non mouvante, hein, une sorte de tapisserie générale, mais à l'intérieur, tout bouge, tout le temps. De manière extrêmement complexe. Et c'est joué par un clavecin aussi. Cette œuvre s'appelle donc le Continuum. Le clavecin se prête tout à fait à son style, à son jeu très particulier, à son travail très particulier de compositeur, même merveilleusement bien. Et comme quoi le clavecin est toujours un instrument qui est aussi prisé par les compositeurs contemporains. Sur l'aspect technologique, et là je vous propose, voilà quand même, attention, j'espère que vous n'allez pas avoir trop de vertige, on fait quand même un gros saut dans le temps. Je vous ai préparé avec Ligeti, on saute quelques siècles et on en arrive donc au tout début de la musique réalisée, assistée par ordinateur. Le tout début de cette musique-là, c'est les années 50 principalement, où de nombreux laboratoires vont naître, surtout aux États-Unis, il y en a un petit peu en France, il y en a d'autres endroits, mais surtout aux États-Unis, notamment le laboratoire Bell, de la compagnie Bell Telephone aux États-Unis, notamment dans certaines universités, l'université de l'Illinois, l'université de Columbia, de Princeton, qui vont s'associer pour travailler dans ce domaine-là. Et les ordinateurs, qui sont beaucoup moins puissants que les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Les ordinateurs ressemblent à ce genre de dispositif extrêmement complet, complexe, gigantesque, hein, qui prennent des proportions incroyables. Et dès ces années 50, quasiment, on a tous les éléments, quasiment tout ce que pourra permettre l'informatique musicale. Il y a 6 domaines, hein, en général, qu'on donne. La composition, donc la composition assistée par ordinateur, la synthèse sonore, la fabrication de sons inédits, hein, par ordinateur, et il y en a d'autres, alors l'écriture de la partition, les interfaces homme-machine, tout un ensemble de dispositifs pour intervenir sur ces ordinateurs, il y a l'analyse musicale, et j'en ai oublié un, mais peu importe, il me reviendra peut-être en route. Je pensais à quoi, bon, peu importe. Ce que je souhaite vous faire écouter, sans détailler cette histoire, alors juste un petit élément, ça fait partie pour moi des 3 grandes révolutions technologiques qui vont bouleverser la musique. Ça fait partie de 3 révolutions. La première, c'est l'enregistrement. Mais ça en fait partie, voilà, c'était ça ma dernière idée, c'était l'enregistrement aussi assisté par ordinateur. L'enregistrement existe depuis la fin du 19e siècle, et puis les lutheries électriques et électroniques. Forcément, la grande technologie du 20e siècle, c'est l'électricité. Et forcément, dès le début du 20e, on s'est intéressé à l'électricité pour fabriquer des instruments. L'ordinateur arrive un peu après, mais va assimiler ces 2 domaines, les intégrer et même les fusionner. C'est le grand point fort, hein, de cette informatique musicale. Alors, parmi les pionniers, hein, Jaren Hiller est un des musiciens qui a fait générer à un ordinateur des compositions aléatoirement ou alors avec certaines indications précises, notamment des compositions pour quatuor à cordes, par exemple, qu'il a fait jouer ensuite par un quatuor à cordes généré par un ordinateur. Dans les années 50, on a eu aussi cet ordinateur particulièrement puissant, le RCA Mark II, qui prend une pièce aussi gigantesque. On entrait les données sur cette espèce de machine à écrire que vous avez, hein, sur la gauche qui pointe un rouleau, donc un rouleau de papier qui est perforé et qui va donner tout un ensemble d'informations à tous les dispositifs à côté et arriver jusqu'à la droite de la photo, un dispositif d'enregistrement de disque vinyle. Donc on arrive à un produit fini, si vous voulez, vous rentrez les données, l'ordinateur fait tout l'ensemble, et on arrive à un produit fini avec des disques, il y a des disques posés sur la table, vous avez une pile de disques qui ont été enregistrés. Alors ça, c'était vraiment une machine qui coûtait 175 000 $ à l'époque, c'était vraiment la haute technologie, et beaucoup de compositeurs sont passés dans les universités comme Milton Babbitt et bien d'autres pour travailler sur ces ordinateurs. Et puis, autre laboratoire, laboratoire Bell, on a un certain nombre de chercheurs, dont Matthews, qui travaille sur beaucoup de domaines, notamment la synthèse sonore. Et ce que dit Matthews, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il vient de disparaître l'année dernière, ce fameux Matthews, Max Matthews. Il dit que pour une seconde de son, il faut 20 minutes de calcul. C'est vraiment pas du tout du temps direct à cette époque-là. Et... il dit qu'il faut que donc cette seconde en vaille le coup. Alors je vais vous faire entendre un petit extrait d'une des compositions de cette époque, une de Gutmann, un de ses assistants, un des chercheurs qui travaille là-bas. Vous verrez si ça en vaut le coup, vaut la peine. Ça, c'est à vous de juger. Quelques exemples. Hein, c'était vraiment les prémices, hein, le tout début. Je n'ai pas le temps de vous la faire écouter, mais c'est vrai que Max Matthews a réalisé aussi la première synthèse vocale. Ça, c'est très, très compliqué. Hein, c'est-à-dire la première fois que l'on a reproduit, entre guillemets, une voix humaine de toute pièce, avec des calculs d'algorithmes, etc. C'est très, très complexe parce que la voix, faire du sens avec la voix, les phonèmes, etc., c'est un monde très, très, très complexe. Il a fait ça au tout début des années 60, en 62, il a fait chanter un ordinateur. Allez, je vous fais écouter un tout petit extrait quand même, parce que ça vaut le coup, c'est assez émouvant. Voilà la voix. C'est celui-là, excusez-moi, si, il est là. Non plus, je vais le trouver, il est là, voilà. Depuis, hein. On sait même très 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 bien le faire, hein. On a réussi à avoir des voix qui sont assez bluffantes aujourd'hui, mais c'était les tout débuts, et pour la petite histoire, vous avez peut-être déjà entendu cette chanson, vers la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick avait repris la chanson au moment où l'ordinateur HAL se fait démonter, et il revient un peu en arrière dans tous ses premiers exercices d'apprentissage, on entend cette voix chanter, hein, dans la version originale du film. Alors, un bond de pas mal d'années, pour vous parler... C'était des petits laboratoires confinés, très élitistes, hein, très réservés. Je vais vous parler de la démocratisation de toutes ces technologies. Elle arrive avec les premiers ordinateurs individuels. Ça, c'est en 77, hein, le Apple II. Et elle va se confirmer dans toutes les années 80 avec l'apparition d'une myriade de petites machines qui vont pouvoir être rassemblées entre elles, communiquer entre elles. Et c'est le début d'un concept extrêmement fort pour les années 80 et qui dure jusqu'à aujourd'hui, le concept de home studio, pour studio à la maison. Alors, quelques éléments là-dessus. Donc ça, je passe sur le CD audio qui fait partie aussi de cet avènement. Mais le premier sampleur de l'histoire, qui est un synthétiseur qui n'a pas de son en soi, mais qui enregistre des sons et est capable de les rejouer avec tout un ensemble de transformations. Celui-là, c'était en 1979, le Fairlight. Mais petit à petit, cet instrument s'est très largement démocratisé. Et on a assisté à une myriade de sampleurs au cours des années 80 qui sont apparus et qui ont permis, en fait, à tout un chacun, parce que c'était de moins en moins cher, d'expérimenter le travail musical à partir de l'enregistrement. Vraiment, c'est des choses qui sont très étonnantes. Faire de la musique, faire des sons à partir de sons enregistré. Ça, c'était une trouvaille et qui marque profondément la musique de la deuxième moitié du XXe siècle. Je vais vous faire écouter un petit exemple d'un groupe, parmi tant d'autres, hein, dans les années 80, qui ne fait de la musique que avec ça. C'était The Art of Noise, qui était un groupe très connu, très populaire. Un tout petit extrait de Art of Noise. Tous les sons que vous entendez sont des sons enregistrés sur des instruments. La basse que vous entendez, hein, qui joue ce fond de basse, a un son très bizarre. Ce n'est pas comme une vraie basse qu'on jouerait comme ça, c'est une note de basse. Une note de basse qu'on a enregistrée et qu'on rejoue sur un clavier, qui donne ce son assez un peu artificiel, avec une chute, une attaque, un petit peu antinaturel, un petit peu carré. Même les voix que vous avez entendues, bam, 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 du début, comme ça, c'était une voix qu'on joue sur une touche, en appuyant sur une touche qui a été enregistrée, qu'on pourrait jouer sur une gamme entière. Ce sont des sons un peu artificiel, entièrement basé sur ces technologies de l'enregistrement. Ça, c'est un fait, c'est quelque chose qui se développe considérablement dans ces années 80. Et l'autre aspect, donc, c'est un système de communication qui a été mis en place par un certain nombre de firmes d'instruments électroniques, le système qu'on appelle MIDI, pour Musical Interface Digital Instruments, en fait, qui veut dire interface numérique pour instruments de musique, et qui permet en fait à un grand nombre d'instruments épars, différents, de communiquer entre eux et de se comprendre. C'est-à-dire, physiquement, on rajoute un câble en plus, si vous voulez, qui permet, pour vous donner un exemple très simple, lorsque l'on tourne un potentiomètre ici, ou que l'on monte une petite tirette ici, de commander un dispositif qui se trouve là-bas, ou là-bas, ou là. Et qui permet à un musicien seul, chez lui, dans sa chambre, de commander tout un arsenal d'instruments différents. Et des instruments différents, on a le choix. Hein, dans ces années 80, il y en a une flopée, des boîtes à rythme, des petits générateurs de sons de basse, etc., etc. Et tous ces instruments vont pouvoir être même rassemblés et commandés par les premiers ordinateurs qui sont dédiés à la composition. Par exemple, en 85, le Atari, qui est un ordinateur qui a été particulièrement prisé pour ce genre de manipulation, le Amiga à la fin des années 80. Et voilà une photo qui pourrait très bien être la photo de ma chambre à une certaine époque. C'était pas elle, mais ça pourrait. Voilà. Bah ouais, c'est bien rangé, c'est tout net, c'est parfait. C'est ce qui me plaît. Vous avez tout un effectif d'instruments dans tous les sens, disposés à droite et à gauche. Tout est relié en haut, voilà, vers là où est ma souris, hein, vers le haut à droite, à un ordinateur qui permet en fait à un interprète d'être chez lui, à la fois le luthier qui fabrique ses propres sons, qui permet à l'interprète d'être le compositeur qui agence sa partition, hein, en mettant des éléments dans l'ordinateur, qui permet aussi d'être le chef d'orchestre, pour diriger toutes ces machines tout seul, et l'interprète, parce qu'on peut intervenir à chaque étape avec des petits boutons, des potentiomètres, etc., etc. Ça, c'est à partir de 85, hein, l'avènement du home studio, et c'est l'avènement de tout un ensemble de musique. Alors là, c'est le home studio qui se déplace de la maison, qui va jouer dans la campagne, par exemple. Hein. Il y a eu beaucoup de mouvements musicaux autour de tout cela, notamment le mouvement techno, par exemple, hein, qui a été tout particulièrement sensible, hein, qui a émergé à partir du moment où on a pu voir les home studios. Et je vais vous faire entendre, par exemple, un extrait de musique house acide de la fin des années 80 qui correspond tout à fait à cette esthétique et tout à fait à cet avènement technologique. Dans les éléments, il n'y a pas grand-chose. Ici, il y a une petite boîte à rythme, une bassline synchronisée pour être au même tempo. So many questions have been made. Il la voit. What people really want to know is how the story all goes about acid. This is acid. I'm gonna give you acid. This is acid. Encore une fois, un exemple très court, hein. Bien sûr, je laisse le plus de place possible à la musique. On va Je ne vais pas vous parler des années 90, je ne vais pas vous parler d'autres éléments, puisque ça, Jesse vous montrera pas mal de choses avec ses propres dispositifs. Je voudrais aborder la phase de l'improvisation proprement dite, qui relie aussi les deux univers. Et pour ce faire, donc, j'ai besoin de la présence de Pierre. Donc, pour vous présenter, on revient en arrière, hein, l'univers de l'improvisation dans le clavecin au 16e, 17e, 18e siècle. Donc merci Pierre de nous rejoindre. Alors, ce que peut-être, avant même qu'on parle d'improvisation, je crois que pas mal d'entre nous aimeraient entendre ce que je voulais dire par les changements de registre, les changements de timbre. Quand on avance un clavier, quand on recule un clavier, quand on déplace certains éléments, comment est-ce que le clavecin peut changer de son? Est-ce que tu veux bien nous montrer ça pour commencer?
Alors déjà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un clavecin qui est quasiment l'évolution la plus finale qu'on ait eu dans la facture de clavecin. C'est une copie d'un clavecin de la fin du 18e siècle. Et donc, vous voyez, c'est un clavecin à deux claviers. Il en existe avec un seul clavier. C'est aussi un clavier qui, quand on joue une note, peut pincer jusqu'à trois cordes. C'est-à-dire que si je joue un La, en fait, il y a trois La qui sonnent ensemble. L'idée, c'est que pour l'accordeur du clavecin, on n'entende pas qu'il y ait trois notes, mais une seule qui fasse un son, une couleur spécifique. Ces trois cordes-là, on peut les jouer indifféremment sur les deux claviers, et surtout on peut les jouer de manière isolée. Alors si je désaccouple les claviers, on dit ça comme ça, je peux jouer donc par exemple une des cordes, l'autre corde, vous voyez, il y a une petite différence de son. Cette différence de son est due à l'endroit où est pincée la corde. Sur le clavier du haut, la corde est pincée la plus proche du chevalet, ce qui va donner un son un petit peu nasal, et c'est pour ça qu'on appelle ce registre le jeu de nasal. Cette corde-là est pincée plus dans le milieu de la corde, ce qui donne un son un petit peu plus rond, comme ce qu'on pouvait entendre dans le premier extrait que Guillaume nous a fait écouter, l'extrait de Virginal. Il y a un troisième jeu donc, qui n'est pas toujours présent sur les clavecins, mais qui est présent sur celui-ci, qui s'appelle le jeu de quatre pieds. En fait, le jeu de quatre pieds, c'est un jeu supplémentaire. Quand je dis le jeu, c'est en fait les registres, comme on parle de jeu pour l'orgue. C'est un jeu supplémentaire qui sonne exactement à l'octave. Alors si je le joue de manière isolée, c'est une petite manette comme ça qui actionne chaque jeu, si j'y arrive. C'est un petit son un petit peu aigrelé comme ça, qu'on joue pas beaucoup tout seul, mais qu'on associe à un autre jeu et qui va donner une couleur spéciale. Une couleur un petit peu brillante, enfin ça dépend, voilà, c'est une manière de coloriser, puisque le clavecin, contrairement au piano, instrument auquel il est souvent comparé, ne permet pas de faire de nuances. Parce qu'en fait, c'est, comme Guillaume vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est une sorte de guitare à clavier. Et ce qui fait sur une guitare qu'on fait plus ou moins de nuances, c'est la pression qu'on va mettre sur l'ongle. Or là, la pression, elle est définie par le réglage à l'origine du qu'on choisit quand on fabrique l'instrument. Et donc, on ne peut pas faire de variation de décibels. Alors on va varier les plaisirs d'une autre manière, notamment en registrant d'une manière ou d'une autre.
Très bien, merci pour cet éclairage. Voilà, tout simplement, hein, je pense que vous l'avez compris, mais c'est que quand on appuie plus fort, ça ne change rien du tout, hein, vraiment rien du tout. Hein, plus fort ou moins fort, ça sautera de la même manière. Ce que nous allons aborder donc, avec Pierre, et j'ai pris ici une partition, donc un facsimilé d'une partition de Vivaldi, hein, qu'il m'a fait passer, c'est le fait que lorsque l'on regarde une partition de l'époque baroque, hein, 16e, 17e, surtout 18e siècle aussi, première moitié, cette période qu'on appelle baroque, il se trouve que cette partition, généralement, est presque comme une coquille vide. Il n'y a presque pas d'éléments. Alors, vous ne lisez pas tous la musique, hein, j'en suis persuadé, mais vous voyez qu'il y a très peu de notes, en fait, hein, juste quelques petites notes, comme une ligne, c'est la ligne de basse qui est écrite, et par-dessus ces notes, de temps en temps, même pas tout le temps, de temps en temps, il y a des chiffres, Hein, on appelle ça une basse chiffrée, une basse avec chiffrage. Et cela donne des indications clavecinistes, mais ce ne sont que des indications extrêmement succinctes, c'est pas grand-chose. Et en fait, le claveciniste, à l'époque, et aujourd'hui encore, bien sûr, puisqu'on a appris à le faire, on a retrouvé dans les manuscrits, dans les traités, on a essayé de retrouver la manière de le faire au mieux tel qu'on pouvait le faire à l'époque, le claveciniste va remplir l'espace, si vous voulez, entre la note la plus basse qui est écrite et le chant qui l'accompagne éventuellement, ou le violon, ou un instrument supérieur. Et remplir un espace, c'est pas faire le bouche-trou, c'est vraiment tout un univers extrêmement abouti et très varié qu'il peut déclencher. Alors peut-être tu peux nous jouer la basse seule, sans rien. Bien, on se rend compte que si on suit la partition texto, on n'a vraiment, vraiment pas grand-chose. Si on suit avec un peu les chiffrages qui sont écrits ou qui sont suggérés, parce que quand ils ne sont pas écrits, c'est qu'ils sont tellement évidents qu'on n'a pas besoin de les écrire, hein, c'est bien ça. Donc on en arrive à, ça c'est toi qui l'avais réalisé, tu m'as envoyé la partition simple, donc peut-être rejouer la même chose, mais juste avec l'accord simple, plaqué. Et à partir de ces quelques indications, ça c'est ce que nous dit la partition, on peut créer un univers extrêmement varié, extrêmement différent, soit en plaquant comme vous l'avez entendu, mais aussi en égrenant, en arpégeant, et puis aussi en rajoutant tout un ensemble de petites figures qui vont donner du caractère à l'ensemble. Alors peut-être que tu peux, sans même que je te donne peut-être de caractère ou d'idées comme ça, nous jouer déjà quelque chose d'un peu de plus élaboré, déjà improvisé à partir de cette coquille vide. Rien de tout cela, vous l'avez compris, n'est écrit dans une partition baroque. Ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que ça, c'est valable pour l'écriture du classa, mais c'est valable pour toute l'écriture baroque, même les opéras. La plupart du temps, les opéras, on n'a presque rien. On a juste une basse et le chant qui est écrit. Et encore, le chant n'est pas écrit de manière extrêmement ornée, comme habituellement. Alors, on avait décidé de faire ce petit exercice, donc, puisqu'on a la chance d'avoir un claveciniste donc, spécialisé dans cet univers-là. Je vais peut-être essayer de te demander, c'est une basse obstinée, c'est bien ça?
Tout à fait, oui. Voilà. C'est-à-dire un cycle qui se répète ad libitum.
Voilà. Donc, sur cette basse obstinée, on peut imaginer un chant, par exemple. Ça arrivait fréquemment qu'on ait des ostinatos avec un chant. Et ce chant peut aborder des passages de douleur, de peine, de tristesse. Est-ce que tu peux nous jouer cette même basse avec un aspect très triste ? C'est ce qu'on appelle un affetto, hein, c'est bien ça, hein, la théorie des affects, des affetti, hein, à cette époque est très très importante, et on a des figures de rhétorique musicale, hein, qui vont accompagner chacun des affects qui sont véhiculés par un texte. Ça peut être aussi le cas dans la musique instrumentale, comme c'est le cas ici, hein. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de joyeux, parce que le texte peut passer sur une idée joyeuse, un souvenir joyeux, par exemple, si c'est une lamentation d'amour, comme fréquemment on peut avoir... Bien. Tu peux nous en proposer une autre ?
Oui, alors peut-être quelque chose un peu une figure de bravoure, un petit peu comme on aime le montrer à l'époque baroque. Par
Et je crois qu'on a des dizaines de figures comme ça, de passions comme ça, qui sont différentes. Et comment est-ce qu'on les a retrouvées? Comment est-ce qu'on a pu retrouver toutes ces choses-là? C'est des traités qui en parlent, c'est des...
Oui, c'est-à-dire à l'époque baroque, déjà un petit peu à la Renaissance, mais déjà à l'époque baroque, que ce soit dans la littérature, dans la peinture, dans la musique, dans les arts en général, le message artistique passe avant tout par la rhétorique, hein, que ce soit les sermons à l'église ou les figures même pyrotechniques pour les feux d'artifice. On est à chaque fois dans un message qui est guidé par la rhétorique. Et donc il y a des traités de rhétorique à la fois comme on a des traités de rhétorique en écriture, on a des traités de rhétorique en musique qui sont très précis et qui apprennent à l'interprète à accompagner de telle manière quand on est en train d'accompagner un chant d'amour ou quand on est en train d'accompagner un opéra où c'est un personnage du diable, un personnage des enfers, par exemple, voilà. Et c'est vraiment une manière d'accompagner qui s'apprend à l'époque, vraiment dès l'initiation des plus jeunes dans la musique. C'est vraiment la manière de faire.
Bien, ben merci Pierre. Je vais passer à l'autre pôle d'improvisation, qui est le pôle électronique. Et on aurait pu dire beaucoup de choses sur ce pôle, mais ce sur quoi je pense qu'il était le plus judicieux de s'arrêter, c'est la question des contrôleurs. Vous avez vu que là, le clavecin, c'est assez évident. Hein, on a ce clavier, on a cette présence, voilà, de cette zone d'accès, hein, au son. Pour l'informatique, aujourd'hui surtout, c'est assez pauvre et assez triste de voir un ordinateur comme ça, tout simple, et quelqu'un qui sait faire devant son ordinateur. Il faut quand même des moyens d'accès, des moyens de transformer le son, et il en existe des dizaines. Je vous montre quelques photos de contrôleurs possibles qu'on peut brancher sur l'ordinateur et qui donnent en fait un moyen d'accès pour le son. Et ça, tout cela, c'est Jesse qui va donc vous l'expliquer, et je lui laisse la parole et je m'éclipse.
Bonjour, merci. Je ne vais pas aller dans trop de détails, mais ce que je trouvais intéressant pour revenir sur ce que disait Guillaume, c'est que oui, évidemment, il faut avoir des interfaces qui permettent de manipuler la musique, les samples, etc. Enfin, tout ce qu'on peut avoir dans l'ordinateur, qui est en règle générale le cœur de tout ça. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à l'improvisation, c'est que ce que vous a montré Guillaume dans les années 80, c'était des outils qui servaient justement à enregistrer. Et en règle générale, tous ces contenus étaient mis sur vinyle pour être souvent joués par des DJ. Je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est que c'était des outils justement plus de composition que d'improvisation. Et ce qui est probablement en train de changer maintenant, il y a pas mal de musiciens issus des musiques électroniques qui tentent d'aller dans cette direction-là, qui n'est pas évidente, qui est de faire en sorte que ces éléments qui servent à séquencer par exemple de la musique, à l'agencer et qui est quelque chose qui peut prendre une journée pour être content du résultat entre guillemets, régler des effets, etc., c'est de pouvoir faire tout ça sur scène directement. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, je vais jouer un petit jeu, hein, parce que je sais qu'il y a certains musiciens de musique électronique dont c'est vraiment la spécialité, ce n'est pas la mienne, c'est de partir d'une page blanche, parce que la plupart des musiciens ont déjà des éléments à enregistrer qui vont déclencher, on va dire, et retravailler. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de tout effacer, et donc du coup de partir de strictement rien. Donc évidemment que j'ai des sons qui sont enregistrés, mais il n'y a rien qui est mis bout à bout. Donc du coup, ce qui est un travail qui normalement devrait prendre plusieurs journées pour être content du résultat, là, l'idée c'est de le faire directement, quoi. Donc évidemment, je ne vais peut-être pas réussir. Mais bon, c'est un peu le jeu, quoi. Et donc, je pense qu'il y a énormément de musiciens aujourd'hui qui tentent d'aller dans cette direction-là. Donc, du coup, avec des interfaces qui permettent d'être le plus à l'aise, on va dire, avec la matière et de pouvoir aller un peu dans toutes les directions, quoi. Donc, voilà, je vais reposer le micro et puis on va voir ce que ça donne. Juste pour vous, c'est qu'évidemment je vais séquencer des éléments, donc c'est quand même bien que moi j'ai au moins une base rythmique pour savoir un peu où je vais, quoi. Donc c'est juste pour ça. Je vais juste dire deux mots très rapidement, c'est juste que vous ayez une idée et qu'on puisse après en profiter. Donc c'était juste pour vous dire que ça partait d'une page blanche, donc histoire quand même de vous donner un peu une idée de ce qui se passait.